Partager un petit peu ce soir quelque chose concernant la guérison.
C'est pas fait exprès forcément, hein, mais c'est ce que je vis actuellement et c'est ce que Dieu est en train de m'enseigner. Donc des fois en fait j'ai remarqué que des fois on avait beaucoup de choses dans la tête, on a beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier. Et ce que je me rends compte, c'est que Dieu veut pas que juste on ait des bonnes choses dans la tête, mais Dieu veut que on passe. Que ces choses-là qu'on a dans la tête, on puisse les vivre pratiquement. Et en fait, souvent, il veut tester ce qu'on sait dans notre tête, dans le concret, pour voir si réellement on applique et si ce qu'on croit, ça tient dans la pratique. Et au niveau de la foi, c'est important. Des fois, moi, je peux dire, je crois que Dieu fait des miracles, mais si dès que je suis malade, je cours chez le médecin sans même prier ou même avoir la foi que je peux guérir, alors ça reste que de la théorie. Mais Dieu veut confronter ce qu'on croit avec ce qu'on vit. Il veut prendre la théorie, la mêler à la pratique pour que ça fasse un bon équilibre et pour nous faire grandir comme ça. Voilà, et c'est ce que Dieu est en train de faire avec moi concernant la guérison. Il y a Jean 13, verset 17 qui nous dit « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Voilà, Jésus le dit. Hein. On est heureux quand on sait les choses si on les met en pratique. Donc, si vous rentrez dans la pratique dans votre vie, concernant des choses que vous savez, des choses bibliques, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si vous sentez qu'il y a de la tempête, que c'est un peu difficile, ne vous inquiétez pas. C'est parce que Dieu veut nous faire grandir de foi en foi. Il veut vraiment qu'on gravisse des échelons. Et c'est tout à fait normal, ça s'appelle la croissance spirituelle. Voilà, c'est qu'on n'est pas appelé à rester des petits bébés, mais Dieu veut qu'on grandisse, puis qu'on grandisse jusqu'à devenir des adultes mûrs. Voilà. Donc, on sait tous que si on veut savoir ce qu'il y a dans un testament, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le lire, c'est tout bête, hein? Voilà, il faut le lire premièrement. Donc, on peut avoir un testament en main, je peux être la personne la plus riche du monde, mais si je ne le lis pas, je peux continuer à rester pauvre toute ma vie. Et ça, c'est complètement bête. C'est stupide, hein? Mais ça peut arriver. Donc si nous voulons connaître la volonté de Dieu sur n'importe quel sujet, alors il nous faut lire son testament. Ça, c'est la base. En fait, ça fait un peu drôle de devoir brasser de là-bas à là. Alors je suis désolée, je vais essayer de regarder tout le monde, mais ça aurait été mieux que tout le monde se mette là devant. Comme dans l'ancienne salle, c'était beaucoup plus facile. Là, ça fait étendu, hein. Ouais, mais ça fait un peu drôle. Bref. Le mot testament, en fait, ça signifie, sur le plan juridique, les dernières volontés de quelqu'un. Voilà, sur le plan juridique, ça veut dire ça. Et la Bible, elle contient les dernières volontés de Dieu, son testament, dans lequel il nous fait héritier de toutes les bénédictions de la rédemption. Donc moi, si je veux parler de la volonté, il faut que je sache exactement ce que Dieu dit, de la guérison, pardon. Il faut que je sache ce que Dieu dit, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que le testament dit sur la guérison. C'est important. Autrement, j'aurai rien du tout. J'aurai aucune connaissance et il n'y aura aucune consistance pour pouvoir avoir la foi et tenir et percer et être guéri. Donc, je vais reprendre un verset que j'ai repris la dernière fois que j'ai prêché. C'est Ésaïe 53, verset 4, qui dit « Il s'est chargé de nos maladies et il a porté sur lui nos douleurs. » Donc, le mot traduit, ça je l'avais déjà dit, hein, le mot traduit pour porter, en hébreu, c'est nasa, et ça signifie soulever, porter au loin, emporter à une longue distance. Donc c'est un mot du vocabulaire lévitique utilisé à propos du bouc émissaire qui portait au loin sur lui les péchés du peuple. Et dans Lévitique 16 au verset 22, on peut lire « Le bouc emportera, donc c'est nasa, il emportera à une longue distance sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. » De la même manière, Jésus a emporté sur lui nos péchés et nos maladies, hors du camp jusqu'à la croix. Jésus, il a pris nos péchés à la croix, il a pris nos maladies. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les maladies qui étaient sur moi, elles sont passées sur Jésus. C'est Jésus qui les a portées. Et ça me trouble d'avoir à regarder en fait de partout, donc je suis désolée. Ouais. Ça signifie donc au calvaire, le péché et la maladie sont passés de moi sur lui, et que le salut et la guérison sont passés de lui sur moi. » Ça, c'est la vérité. Ça a été accompli à la croix. Le péché et la maladie qui étaient sur moi sont passés sur lui. C'est trop proche. Non, mais c'est... Je préfère. Voilà. Et le salut et la guérison sont passés de lui sur moi. Amen. Vous le croyez? Ça a été fait, en fait. Hein. Ça, c'est une vérité spirituelle. C'est ce qui nous est dit dans la parole. Donc, quand Jésus a porté mes péchés, nos maladies et nos douleurs, il les a emportés au loin, il les a complètement enlevés de nos vies. Ça a été fait il y a 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose que Jésus doit faire encore aujourd'hui, mais ça a été fait il y a 2000 ans. Il n'a pas seulement compati à nos souffrances, mais il a pris sur lui, à notre place, les souffrances et les maladies que nous portions, que nous aurions dû porter, nous. Il les a pris. Ça a été fait. L'apôtre Pierre le dit quand il écrit, « Il a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois, sur la croix. » Jésus n'a jamais péché, mais il s'est chargé de nos péchés. Il n'a jamais été malade, mais il s'est chargé de nos maladies à la croix. Donc potentiellement, c'est important de croire que Jésus a porté nos maladies. Ce qui était sur nous, c'est Jésus qui l'a pris. Donc on a été guéri à la croix. Ça, c'est vraiment important de dire, on ne va pas être guéri. Jésus n'a pas à faire aujourd'hui quelque chose. Mais il y a 2000 ans, j'ai été guéri. Il y a 2000 ans, j'ai été guérie à la croix. Voilà, donc en fait, la Bible enseigne aussi que la maladie est le châtiment physique de l'iniquité, mais que Christ a porté dans son corps toutes les conséquences physiques de nos péchés et que notre corps est juridiquement libéré de la maladie. Notre corps, il est juridiquement libéré de la maladie. Donc il y a quelque chose que j'ai vraiment appris ces derniers temps. Je vous ai partagé que ma maman était tombée, elle s'était cassée les ligaments. Et en fait, jusque cet événement-là, moi je sais que quand je priais pour les gens, je demandais à Jésus en tout cas de les guérir. Je disais toujours, Seigneur, guéris telle personne. Et ce que Dieu m'a vraiment enseigné au travers de ce qui est arrivé à ma maman, mais ça c'est vraiment un enseignement, une révélation nouvelle que j'ai reçue, c'est qu'en fait, on n'a pas à demander pour la guérison. J'ai vraiment appris ça, et on n'a pas à demander à Jésus de guérir. C'est déjà fait. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement à commander à la maladie. La maladie, en fait, elle n'a plus aucun droit d'habiter dans notre corps. La maladie, elle n'a aucun droit légal d'habiter dans mon corps. Elle n'a aucun droit de venir m'embêter. Donc si elle vient, elle sait qu'elle n'a pas le droit de venir. Donc si elle vient et que moi, je ne sais pas qu'elle n'a pas le droit de venir, je vais la laisser s'installer chez moi et je vais trouver ça tout à fait normal. J'ai un corps, il y a des grippes, il y a des cancers, il y a des maladies. Eh bien, c'est normal que je sois malade. Mais la maladie, elle n'a aucun droit légal de venir s'installer dans mon corps. Donc quand elle vient, ce que j'ai appris avec ma maman... Et je peux dire qu'en un mois et demi, maintenant ça fait deux mois qu'elle est tombée, en un mois et demi, en deux mois, je n'ai jamais demandé à Jésus de la guérir. Ce qu'on a fait, on s'est positionné avec ma maman en famille et on a commandé tous les jours, aux ligaments de se ressouder. Et il y a deux semaines, elle a été chez le médecin, ça j'en avais déjà un petit peu parlé, hein. Elle a été chez le médecin. Et la veille encore de sa visite chez le médecin, parce qu'en fait, elle est tombée, elle s'est cassée les ligaments, et à l'hôpital, on lui a dit, dans un mois et demi, vous revenez, et on verra un petit peu s'il faut opérer. Donc tout de suite, on a dit, non, on se positionne, il n'y aura pas d'opération. En tout cas, on se positionne contre l'opération. Je ne dis pas qu'on ne doit pas passer par les interventions chirurgicales, je ne suis pas en train de dire ça, hein, mais je dis comment nous, on s'est positionné, ce qu'on avait dans notre cœur, on s'est positionné comme ça. Et tous les jours, on a vraiment ordonné aux ligaments de se ressouder. Parce que le chirurgien avait dit que c'était très rare, mais que ça pouvait arriver que des ligaments se ressoudent. Mais c'était très, 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 très rare. Ça restait miraculeux, il a dit. Donc nous, on a ordonné tous les jours, aux ligaments de se ressouder. Et puis un mois et demi après, quand elle a été chez le chirurgien, alors que la veille au soir, elle me disait « J'ai toujours aussi mal ». J'ai toujours le genou qui bouge. Elle a vu une attelle, mais quand elle l'enlevait, elle disait que le genou partait. Quand elle a été chez le médecin, le lendemain, il lui a enlevé l'attelle et il lui a dit, madame, alors je vais vous dire ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, elle avait le ligament croisé postérieur qui était cassé à 100%. Il lui a dit, madame, le ligament postérieur croisé, il s'est ressourdé à 100%. Le ligament antérieur, il était rompu, mais c'est le moins important. Il ne s'est pas ressoudé. Mais ça, à la limite, on s'en fout, c'est le moins important. Hein. Non, mais il va venir, ça va venir, en fait. Hein. Ça va venir. On croit qu'on continue, en tout cas, à ordonner aux ligaments de se ressouder, et on croit qu'ils vont aussi se ressouder et que le genou sera encore plus fort à la fin que ce qu'il était avant qu'elle tombe. Et le ligament latéral interne, il était déchiré à 75% et il s'était consolidé à 75%. Donc, et je me rappelle, ma maman me disait la veille, mais tu vois, j'ai les mêmes symptômes, j'ai mal, et peut-être que c'est la volonté de Dieu que je me fasse opérer. Je lui dis, maman, mais attends, on s'est positionné comment il y a un mois et demi ? Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, la maladie, elle n'a pas à rester, les ligaments, ils n'ont qu'à obéir. Donc on a prié comme ça, mais pourquoi tu vas lâcher 12 heures avant, pourquoi tu vas lâcher ce que Dieu a fait, même si tu ne le sens pas ? Elle m'a dit, c'est vrai, ok, ouais, ok, tu as raison, donc... Jusqu'à demain, sur la table du chirurgien, le miracle peut se faire. Donc, ok, on croit. Et puis, on s'est positionné. Et le lendemain, donc, on a appris cette nouvelle. Donc, elle ne se fait pas opérer. Et on continue de prier. Il y a de la rééducation, mais ça, c'est pas mal. Et on continue de prier jusqu'à ce que les ligaments soient complètement, complètement restaurés. Et ça, on le croit. Et tous les jours, jusqu'à ce qu'on ait cette nouvelle, on continuera d'ordonner et de commander aux ligaments de se restaurer. On ne va pas demander, pitié à Jésus, Jésus, tu peux guérir. C'est déjà fait. Et vraiment, ça, je l'ai appris. La maladie, elle n'a aucun droit légal. C'est comme si Jésus, il avait mis un panneau sur nos vies où il avait marqué « propriété privée, interdiction à la maladie de venir ». L'héritage de cette personne, c'est la guérison. Et en fait, la maladie, elle sait qu'elle ne doit pas venir. Vous savez, souvent, il y a des chiens, ils savent qu'ils ne doivent pas rentrer dans les propriétés privées. Et ils font quoi ? Ils rentrent. Alors, si un chien rentre dans votre propriété, qu'est-ce que vous allez faire ? Et s'il ne bouge pas, vous allez faire quoi ? Vous allez lui lancer des pierres, et s'il ne bouge pas, vous allez le poursuivre avec des bâtons jusqu'à ce qu'il dégage. Et c'est exactement la même chose avec la maladie. La maladie, c'est comme un chien, en tout cas c'est une personnalité qui sait qu'elle n'a rien à faire chez vous, qui sait qu'elle n'a rien à faire dans nos corps. Et si on ne lui dit pas, elle va faire comme le chien quand il rentre dans une propriété. Il va s'approcher jusqu'à ce qu'il rentre dans la cuisine et qu'il vous pique votre poulet, jusqu'à ce qu'il monte et qu'il s'installe dans votre chambre, jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il prenne le terrain. Mais c'est exactement la même chose. Et je crois vraiment qu'on doit... c'est ce qui s'est passé à la croix. Et c'est comme ça qu'on doit voir et traiter la maladie. Pour nos vies, premièrement, et pour les personnes pour lesquelles on va prier. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est que la guérison... Parce que des fois aussi, on fait des erreurs, en fait... Moi, pendant longtemps, j'ai cru que la guérison était instantanée. Mais en fait, la guérison, quand elle est instantanée, vous savez comment ça s'appelle ? Ouais, super. Ça s'appelle un miracle. Donc, parce que la guérison, c'est un processus. Le miracle, c'est instantané. Et je crois au miracle et je crois que Dieu veut continuer à faire des miracles. On prie pour quelqu'un, le miracle se fait. Mais la guérison, en fait, c'est un processus qui va prendre plus ou moins de temps. Alors, tant mieux si c'est court. Parce que plus ça va être court, ben moins ça va être difficile pour nous. Mais quelquefois, ça peut durer longtemps. Et vraiment, quand ça dure longtemps, on a besoin alors de deux choses. On va avoir besoin de persévérance et on va avoir besoin de marcher par la foi jusqu'à ce qu'on voie la manifestation de la guérison prendre place dans nos corps. Spirituellement, la guérison, elle est faite. Après, ce qui peut prendre du temps, alors des fois ça fait viouf, et c'est le miracle, mais des fois ça va prendre un certain temps, et ça va nous amener à être inconfortable, parce qu'on va devoir persévérer, et on va devoir marcher par la foi, sur un chemin qui est souvent difficile, parce qu'on va avoir affaire à nos sens, à la douleur, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, et c'est ça qui va être difficile, c'est ça qui nous met en tension. Donc ce qu'on va voir justement, c'est ce que ça signifie de marcher par la foi dans le processus de guérison. Voilà. Donc moi, je pense que c'est le plus difficile. Et c'est là que souvent on échoue. C'est là qu'on échoue. Parce que Jésus, il n'a pas échoué, c'est déjà fait. Mais c'est nous qui échouons dans cette part où il y a ce temps qu'on va devoir traverser et où on va devoir marcher, même si on sent, comme ma maman, que le genou n'était pas rétabli. Elle allait baisser les bras, elle allait dire « Ok, c'est la volonté de Dieu que je me fasse opérer. » Et c'est là qu'on perd le terrain et c'est là qu'on n'arrive pas à la victoire et qu'on n'arrive pas à la guérison. C'est dans ce laps de temps qu'on peut se faire voler la guérison qu'on a reçue lors de la prière et de la prière d'autorité. Donc, après avoir prié, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? On a prié. Par exemple, cette semaine, je me suis réveillée un matin, j'avais une boule sous l'œil qui me faisait très très mal, ça m'avait empêché de dormir. Et donc, j'ai prié, j'ai fait ce que je vous ai dit, j'ai pas été gentille avec, j'ai fait comme si c'était un chien qui doit pas venir, j'ai dit au nom de Jésus, tu dégages, tu n'as rien à faire chez moi, tu n'as pas le droit d'y être, donc tu t'en vas. Et qu'est-ce qu'il a pas fallu que je fasse derrière ? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire une fois qu'on a prié, qu'on a pris autorité ? Non, ça à la limite. Je crois pas que ça fasse plus... Ouais. Mais plus encore. Non, pas frotter. En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas aller consulter nos cinq sens. Il ne faut pas aller les consulter. Il ne faut pas aller chercher la preuve qu'on a été exaucé. Ça, il ne faut pas le faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos sens, ils fonctionnent indépendamment les uns des autres. Je vois ce que je ne peux pas entendre et j'entends ce que je ne peux pas voir. En fait, l'ouïe sert à quelque chose et la vue sert à autre chose. Et ce que je possède par la foi, c'est une réalité, il faut la mettre dans la tête, ce que je possède par la foi n'existe pas encore pour mes cinq sens. Ça n'existe pas encore pour mes cinq sens. Si mes cinq sens disent le contraire de la parole de Dieu, je ne dois pas pour autant douter. Parce que la foi, elle s'appuie sur une évidence spirituelle qui demeure parfaite. Donc notre foi, elle va demeurer réelle si nous croyons malgré toutes les preuves contraires données par nos cinq sens. Nous devons comprendre que nos cinq sens appartiennent à l'homme naturel et qui sont donnés pour percevoir les choses de ce monde. Les cinq sens, ils ne sont pas donnés pour percevoir les choses spirituelles. Ce n'est pas avec nos cinq sens qu'on peut percevoir les choses de l'esprit. Les cinq sens, ils sont donnés pour l'homme naturel. Et je vais continuer, je ne vais pas aller plus vite que ce que j'ai écrit, parce qu'autrement, j'oublierai des choses. Et les choses de Dieu, elles peuvent être discernées, elles ne peuvent être discernées, ni reçues, ni connues par nos sens physiques, mais elles peuvent seulement être discernées et connues par... Ouais, donc par la foi. Il n'y a que la foi. Donc les cinq sens, ils sont pour le naturel. Et la foi, elle est pour le spirituel. Et avec les cinq sens, on ne peut pas aller dans le spirituel. Et avec la foi, on peut quand même aller dans le naturel. Parce que c'est plus grand. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de souligner tout à l'heure, c'est que c'est important de persévérer. Vous savez, pour ma maman, on a prié au début... Enfin, on a prié, on a pris autorité, on a commandé au ligament, mais quand je l'appelais au téléphone et qu'elle me disait, ben, j'ai même pas eu à l'appeler, en fait, elle s'est blessée, je suis descendue à Nîmes rapidement parce qu'il y avait des vacances, et on priait, et elle avait mal encore, et on s'est jamais arrêté de prendre autorité. Je crois que c'est important, c'est dans ce processus, même si on a mal, même si ça passe pas, on doit continuer, on doit persévérer. On doit vraiment persévérer jour après jour après jour. Si ça doit durer 10 jours, on persévère 10 jours. Si ça doit durer 1 mois, on persévère 1 mois. Si ça doit durer 2 mois, on persévère 2 mois. Jusqu'à ce qu'on voie la manifestation de la guérison prendre place dans nos corps. Et c'est pas parce que Louis dit que le parfum n'existe pas parce qu'elle ne peut pas le sentir que le parfum n'existe pas. Ok ? C'est pas parce qu'un sens dit que quelque chose n'existe pas, parce qu'il n'a pas la capacité de le recevoir, que la chose n'existe pas. C'est pas parce que moi, je ne peux pas voir l'oxygène que je respire qu'il n'existe pas. Okay ? C'est pas parce que je n'ai pas vu la Statue de la Liberté à New York que je dis que la Statue de la Liberté, elle n'existe pas. Ça, c'est être complètement stupide. De même, ce que nous saisissons par la foi n'existe pas pour nos cinq sens naturels. Ça, c'est normal. Et je ne peux pas dire qu'une chose que je vois n'existe pas, parce que je ne peux ni la sentir, ni la goûter, ni l'entendre. C'est ce qui se passe quand on reçoit la guérison. Et la foi, en fait, c'est comme un sixième sens. On a cinq sens naturels, et on en a un sixième qu'on ne connaît pas, qu'on oublie souvent, que Dieu nous a donné, et c'est la foi. C'est un sixième sens. Mais il est incompatible, il ne peut pas marcher avec les cinq premiers. Il s'aligne que quand il y a un miracle qui se passe. Quand il y a la guérison, alors ils peuvent s'aligner. Mais dans ce temps où on est dans ce processus de guérison, ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. OK ? Ils ne peuvent pas. Parce que si on confronte la foi à nos doutes, à un signe, à nos symptômes, très rapidement, qu'est-ce qui se passe ? La foi, elle défaillit, et c'est le symptôme, et c'est la douleur, et c'est la maladie qui s'impose et qui devient réalité. Donc nos cinq sens naturels appartiennent à l'homme naturel, dont Paul nous dit qu'il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Donc ne nous trompons pas, nous ne sommes pas anormales. L'homme naturel ne peut pas connaître les choses de Dieu. OK ? Donc ce n'est que par notre sixième sens, la foi, que nous pouvons voir et saisir les bienfaits que Dieu nous offre tant qu'ils ne sont pas pleinement manifestés. Amen. C'est que par ce sixième sens. Donc la guérison de notre âme et de notre corps s'appuie sur une vérité qui est éternelle, de l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus et pas sur nos sensations. Si on veut tenir dans la guérison, pour la guérison, on doit s'appuyer sur cette vérité. Pas sur ce qu'on ressent, pas sur ce qu'on sent, pas sur comment on se sent, mais vraiment sur l'œuvre parfaite de la croix accomplie par Jésus. Donc j'ai été guérie il y a 2000 ans, et la maladie n'a plus de pouvoir légal chez moi. Ça, c'est moi, en tout cas, je peux dire ce sur quoi je suis assise, ce sur quoi je me tiens, ce sur quoi je grandis, c'est sur cette vérité. Pendant longtemps, je ne savais pas, ou je savais, j'avais entendu, mais je n'étais pas guérie, je devais être guérie. Mais aujourd'hui, la vérité biblique, c'est que j'ai été guérie, vous avez été guérie, on a été guérie il y a 2000 ans. Et la maladie n'a aucun droit légal. Alors elle peut venir comme un chien, elle va venir, elle est venue. Je veux dire, on est tous là, hein, vivants, pour dire qu'on est malade à certains moments, mais elle n'a aucun droit légal pour demeurer chez nous. Amen. Ça, c'est vraiment ce que dit la parole de Dieu. Donc après avoir saisi ta guérison par la foi, ne regarde ni à tes circonstances, ni à tes sensations. Alors la maladie, elle va être comme le chien, elle va se débattre, elle ne va pas vouloir partir. Des fois même, on est débarrassé, on croit que c'est terminé. Et puis, un beau jour, on se lève et hop, on a le symptôme qui est revenu. Mais bon, dans ces cas-là, c'est comme le chien qui était parti, il a battu en retraite, et puis il se dit, mais je vais revenir. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, eh ben, le maître, il va être un petit peu plus cool, il est peut-être fatigué, il a peut-être des soucis, il a peut-être tout simplement envie de s'apitoyer, il n'a pas envie de combattre, il a envie de se reposer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il va me laisser rentrer un petit peu. Puis si je rentre un petit peu, demain, quand il aura le dos tourné, je rentrerai un petit peu plus. Et la maladie, en fait, elle va fonctionner dans ce même schéma. C'est exactement la même chose. Alors, je donne un petit exemple. Quand Pierre marchait sur l'eau, les vagues étaient aussi hautes que quand il a coulé. Ça, on le lit dans la parole de Dieu. Hein. Quand il marchait sur l'eau, il n'est pas dit que les vagues, à ce moment-là, elles ont baissé et que c'est pour ça que Pierre a pu marcher. Alors, vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il a coulé ? Ce n'est pas parce que les vagues ont augmenté. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tant que Pierre ne regardait pas les vagues, elles ne pouvaient le gêner. Mais dès qu'il les a regardées, il a douté et il a coulé. C'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas que les vagues ou ce qui était environnant a changé, c'est que tant qu'il ne regardait pas les vagues, il n'était pas gêné. Sa foi, elle était stable. Elle n'était pas sur les éléments, elle n'était pas sur les sensations. Et Dieu nous enseigne là que si nous nous occupons de ce que nous voyons ou sentons, au lieu de nous occuper de lui et de sa parole, de ce qu'il dit, alors nous allons perdre ce qu'il nous a donné. Dans ce temps, dans ce processus, on va perdre ce qu'il nous a donné. Et Satan, il s'efforcera de nous reprendre ce qu'on a reçu de Dieu. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas voir Satan de partout, mais Satan va s'efforcer de nous reprendre ce qu'on a reçu de Dieu. Ça, il faut aussi le savoir. Et Dieu nous avertit en Apocalypse 3:11, il dit « Retiens ce que tu as reçu, retiens ce que tu as ». Jésus avait donné le pouvoir à Pierre de marcher sur l'eau, mais le diable le lui a repris en attirant son attention sur le vent, qui représente les choses que nous sentons, et sur les vagues, qui représentent les choses que nous voyons. C'est comme ça que Pierre a coulé. Donc Pierre avait la puissance, et il l'a utilisée, mais il l'a perdue en doutant. Et nous aussi, cette stratégie-là, on va la rencontrer dans nos vies. C'est la même chose. Ce qu'on voit dans la Bible, les enseignements qu'on peut tirer sur ce que les apôtres, sur ce que les disciples ont vécu, on va passer par le même chemin. Donc c'est important de voir, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a fait chuter les uns et le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Si nous surveillons nos sensations et nos symptômes, nous serons comme un fermier qui déterre sa semence pour voir si elle germe. Et ça, c'est stupide. Est-ce que vous avez déjà vu un fermier qui déterre sa semence tous les matins parce qu'il doute? Il sait qu'il a semé quelque chose, qu'il y a une semence de vie qui est là. Et comme il doute, parce qu'il ne voit pas, il veut voir avec la vue, avec ses cinq sens, il va creuser et il va aller voir si la semence, elle est en train de prendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'il enlève la terre et qu'il mette la lumière, la semence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Elle meurt. Alors que le bon fermier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il croit que la semence qu'il a semée, elle a commencé à travailler avant même qu'il puisse la voir grandir. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse avec la semence de guérison, avec la semence incorruptible de la parole de Dieu. Amen. Sans attendre de le constater avec nos yeux. Mais ça demande d'être ferme. Ce n'est pas du tout naturel. En tout cas, pour moi, ce n'est pas naturel. C'est naturel pour vous? Oui? Waouh, ben alors, bravo. Mais c'est comme ça que Dieu veut, en tout cas, qu'on voie et qu'on marche. Ouais. Amen. Paul nous demande de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, en Colossiens 3:9. Donc ça inclut les habitudes de pensée de notre vieil homme, qui ne se fie qu'à la démonstration de ses cinq sens. Et il dit, et surtout, il ne faut pas oublier la suite du verset, de nous revêtir de l'homme nouveau et d'avoir la pensée de Christ, c'est-à-dire croire ce qui est écrit et dire comme il l'a dit. À chaque fois que Jésus a été attaqué par Satan et que Satan est venu lui dire de faire ci ou de faire ça, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quelle réponse il a trouvé? Il a toujours dit « il est écrit ». Il ne s'est pas embêté, il n'a pas fait des grands discours, il n'est pas rentré en lui-même pour réfléchir, mais Jésus a toujours dit « il est écrit. » Et c'est une clé. Donc rappelons-nous que l'homme nouveau n'est pas gouverné par ses cinq sens, mais par le sixième sens qui est la foi. Et nous avons été rendus, faits, un homme, une femme, une créature nouvelle. Amen. Et on ne marche plus, on travaille à ne pas être régi par l'homme naturel. Mais ce qu'on désire vraiment, c'est de marcher dans cette nouvelle nature et dans la stature de l'homme spirituel que Dieu nous a donné. Jésus a remporté ses plus grandes victoires, comme je disais, hein, en disant tout simplement « il est écrit ». Et pas juste en le disant, mais en croyant surtout à ceux qui étaient écrits. Donc la foi ne concerne que ceux qui n'est pas du domaine de nos sens. Donc Jésus nous commande de croire que nous avons déjà reçu la chose que nous lui avons demandée avant même qu'elle se manifeste de façon visible. Donc on voit là que cette chose existe sous deux formes. D'abord, il y a la forme invisible et ensuite, il y a la forme visible. Et entre les deux, il y a le processus, le cheminement qui va amener de ce qu'on a et qui est invisible à la manifestation visible. Lorsque Jésus a dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé », la résurrection de Lazare était déjà accomplie dans le domaine invisible de la foi, avant de se manifester quelques instants plus tard dans le domaine de son corps. Vous voyez, il y a eu aussi un temps. Jésus a dit « Je te remercie, Père, de ce que tu as exaucé ». Et on voit dans la parole de Dieu que Lazare, il a fallu quelques instants, il y a eu ce processus, il y a eu ce temps, où ce qui était invisible s'est manifesté à l'état visible. Donc on doit croire de la même façon que nous possédons déjà notre guérison dans le domaine invisible avant de la voir concrètement dans nos corps. Quand Dieu a demandé à Noé de bâtir l'arche, en fait, aucun déluge n'était à l'horizon, était en vue. Il n'y avait aucun déluge. Dieu a dit à Noé, « Noé, bâtis une arche parce qu'il va y avoir un déluge. » Donc Noé, tout obéissant qu'il était, il a dû être stupide aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne s'est pas tourné, il n'a pas regardé si la pluie arrivait, il n'a pas été sur Internet à la météo pour voir si la pluie allait arriver. Qu'est-ce qu'il a fait, Noé ? Dieu lui a dit, il va y avoir un déluge, construis une arche. Noé, tout simplement, il a été chercher du matériel et il a construit une arche. Avant même, la terre était sèche, avant même qu'il y ait une goutte de pluie à l'horizon, il a construit une arche et il ne l'a pas fait en un jour ou en deux jours. Il a dû être stupide aux yeux des gens pendant des mois et des mois. Ils ont dû se dire, mais c'est le cinglé du coin. Ça va mal dans la tête de cet homme. Noé, il a fait ça. Et quand... En fait, on n'avait jamais vu non plus des murailles de pierre s'écrouler au son des trompettes et des cris des hommes. Mais quand Dieu a demandé d'aller sonner de la trompette devant la muraille, c'était la même chose. Le mur, il était là, devant. Okay, et on n'avait jamais vu une trompette, un son de trompette et des cris faire tomber un mur. Mais c'est la même chose. Dieu avait donné une parole, ils ont cru ce que Dieu avait dit. Et ils ont été, ils ont sonné de la trompette, ils ont crié. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La muraille s'est effondrée. La foi, en fait, elle n'attend pas que les murailles tombent pour crier, mais la foi, elle crie et les murailles tombent. La foi, elle crie et les murailles tombent. Amen. Amen. C'est tout le contraire de ce que notre pensée, que notre fonctionnement humain ferait. La foi, c'est tout le contraire. C'est à l'inverse. Elle n'attend pas que ça tombe pour crier, mais la foi, elle crie et les murailles tombent. Amen. Alors, avoir la foi, c'est être tellement convaincu de l'absolue vérité des déclarations de Dieu telles qu'elles sont apportées dans la Bible, que nous agissons selon ces déclarations, même si elles nous semblent complètement absurdes, même si elles nous semblent complètement stupides. Ça semblait stupide de sonner de la trompette et de crier devant un mur et de penser qu'il allait s'écrouler. Ça semblait complètement stupide de Dieu a demandé aux hommes de Dieu dans la Bible de faire des choses qui semblaient complètement stupides. Mais la foi, c'est vraiment croire que ce que Dieu dit, il va le faire. Que ce que Dieu dit qu'il a fait, il va l'accomplir. C'est parce qu'il a regardé continuellement à la promesse qu'Abraham a reçu son miracle. Sa foi, elle s'appuyait sur rien de visible. Si elle s'était appuyée sur quelque chose de visible, Abraham, il était disqualifié. Abraham, il était vieux. Abraham, c'était un pépé. Et Dieu lui dit, Abraham, tu vas avoir un fils. Donc, il ne pouvait absolument pas s'appuyer, et c'est parce qu'il ne s'est absolument pas appuyé sur ses sens, sur son corps, sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il ressentait, sur ce que la biologie lui avait dit qui était possible ou pas possible, qu'à un certain âge, on ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est parce qu'il ne s'est pas appuyé sur tout ça, mais qu'il s'est appuyé sur ce que Dieu lui avait dit, que le miracle s'est accompli dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Abraham, il a eu un fils. ce que Dieu lui avait dit, parce qu'il a cru, il l'a vu. S'il avait raisonné, s'il avait dit, mais c'est pas possible, il ne l'aurait pas eu. Il ne faut pas se leurrer, il ne l'aurait pas eu. Et je crois, et je suis même convaincue, qu'il y a des promesses que Dieu nous fait, il y a un héritage que Dieu nous a donné, on peut passer à côté. On peut passer à côté. Si on ne le croit pas, si on ne fonctionne pas avec la pensée de Dieu, si notre priorité, ce n'est pas de croire d'abord ce que dit Dieu avant de croire ce que notre corps, ce que les autres, ce que le monde, ce que le net nous dit, on ne verra pas. On ne verra pas. Donc soyons influencés par la promesse, la parole de Dieu, et pas par nos symptômes ou la réalité naturelle du moment. Et la bataille, elle est vraiment, qui vais-je croire ? Est-ce que je vais croire Dieu ou est-ce que je vais croire une réalité naturelle ? Est-ce que Abraham, c'était est-ce qu'il va croire Dieu ou est-ce qu'il va croire qu'à 90 ans, ben, il n'a plus de spermatozoïdes ? Parce que la réalité, c'était ça. Non, mais c'est pour ça que ça... Oui, et Sarah... Tout à fait. Et puis elle aussi. Elle n'était plus trop jeune, donc voilà. Tout à fait. Donc là, vraiment, la bataille, elle est là. Qui on va croire ? Demain, vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez croire ? Que Dieu a dit que vous étiez guéri il y a 2000 ans, ou que les symptômes sont plus forts et que non, c'est pas possible. Voilà, la bataille, elle est là. Qui vais-je croire ? Et il y a deux réalités. Il y a une réalité spirituelle, il y a une réalité naturelle. Et c'est la première qui doit dominer sur la seconde. Amen. C'est pas la seconde qui doit dominer. Naturellement, si on marche normalement, c'est la deuxième qui domine sur la première. Mais si on marche comme Dieu veut qu'on marche, alors c'est la réalité spirituelle qui doit dominer sur la réalité naturelle. Et les deux sont ennemis. Donc c'est pas facile, ça va pas être aisé, mais ça va nécessiter de la violence. Ce n'est pas naturel. Ça va vraiment nécessiter de la violence. Une violence spirituelle. Dieu ne nous a pas dit qu'il nous donnerait de meilleures sensations pour produire en nous la foi nécessaire pour être guéri. Souvent, moi-même, la première, je dis « Oh, ben c'est super, je suis guérie, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fait, parce qu'il y a un symptôme qui me dit « J'ai moins mal, par exemple. » Mais en fait, c'est faux. Ok ? On ne doit pas s'appuyer. Parce que si, quand on prie pour moi, j'ai plus mal, alors je vais dire « Il n'y a rien qui s'est passé. » Et si on prie pour moi et que ça va mieux, je vais dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je sens qui va me dicter ce qui s'est passé. Ce qui est juste et ce qui est la vérité, c'est que je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Amen. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est la parole de Dieu qui va amener la guérison dans notre vie. Voilà, donc la vérité, c'est que j'ai été guérie il y a 2000 ans à la croix. Et que je le voie ou pas, que je le sente ou pas encore, je suis guérie par ces meurtrissures. Amen. La puissance de la maladie, elle a été détruite et elle n'a aucun droit sur moi. Elle n'a plus aucun droit sur moi. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous allez changer de comportement ? En tout cas, c'est ce que je prie, hein, c'est qu'on devienne intraitable, c'est qu'on soit plus... tout doux, tout mielleux, tout normaux, je dirais entre guillemets, tout normaux, à la norme, normé, comme un être humain tout à fait normal. Je crois vraiment qu'on a les pieds sur terre, mais on doit vivre dans une autre dimension, dans la dimension spirituelle avec Dieu, et avancer et se battre avec les armes spirituelles. Notre combat, il n'est pas charnel, notre combat, il n'est pas de ce monde, notre combat, il se remporte avec les armes spirituelles, avec la pensée de Christ, avec les armes que Dieu nous a données. Et ça va nous réclamer de la violence, de la détermination, du courage. Ça va nous réclamer de ne pas nous centrer sur notre nombril, de ne pas nous apitoyer sur nous-mêmes, mais d'être intraitables, d'être des durs, d'être des violents, de vraiment désirer de voir le royaume de Dieu descendre et prendre place sur la terre. Que ce qu'il a déjà fait vienne et s'incarne dans nos vies et au milieu de nous. Amen. Seigneur, je te bénis, tu es le Dieu, vraiment le Dieu des guérisons, le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tes façons de faire, elles te sont propres. Je te remercie pour les miracles que tu peux faire instantanément, mais on peut voir dans nos vies, Seigneur, que ce n'est pas tous les jours que ça arrive, mais que, Seigneur, tu opères aussi pour faire grandir notre foi par la guérison, qui est un processus qui prend du temps, qui est une marche, qui est longue, Seigneur, qui est difficile. Et Seigneur, vraiment, je te prie de graver, ne serait-ce même qu'une parole, un verset, une clé, en tout cas, dans le cœur de chacun. Que, Seigneur, vraiment, on puisse utiliser cette clé. Qu'on soit des gens heureux parce qu'on pratique ta parole, on pratique tes vérités. Et Seigneur, merci. Je te prie vraiment de venir fortifier ceux qui sont dans ce processus de guérison depuis longtemps. Je te prie de venir communiquer ta persévérance. Je te prie de venir donner une vision nouvelle ce soir. Je te prie, Seigneur, que chacun sache et proclame et confesse qu'il est guéri depuis 2000 ans. Il est guéri. Et que, Seigneur, ce processus de voir s'incarner la guérison dans le corps, Seigneur, on apprenne à le vivre pour avoir la victoire, pour être guéri. Et pas juste pour être guéri une fois, Seigneur, mais pour marcher dans la guérison tous les jours de notre vie, pour marcher dans la restauration. Seigneur, merci de nous équiper, merci de nous communiquer à chacun. Tu veux un corps fort, tu veux une armée puissante, tu veux un peuple fort. Tu ne nous veux pas faibles, Seigneur, mais tu nous veux forts. Et merci de nous enseigner, merci de nous, vraiment de nous aider à utiliser tes armes spirituelles. Dans le nom de Jésus. Amen.